Polysécure, épisode grand public, je suis accompagné de Laurane. Comment vas-tu?
Bonjour Nicolas, écoute, je vais très bien, je te remercie. Je suis ravie d'être là et honorée de répondre à tes questions aujourd'hui.
Oui, et puis c'est un honneur partagé puisque ça faisait déjà un certain temps qu'on n'avait pas eu cette occasion-là de justement d'échanger sur, entre autres sur le livre dans ce cas-ci, et de discuter des sujets qui sont relatifs à la protection pour les gens. Fait qu'on revient, c'est vraiment, on est encore basé sur le livre « La protection des données personnelles » sans questions et réponses. On va aborder le chapitre 5, qui sont essentiellement les jeunes et les personnes âgées. Dans le fond, tous ceux qui sont soit ne connaissent pas bien la technologie, puis qui sont justement faciles à leurrer dans des pièges, ou les jeunes qui sont en surabondance dans ces milieux-là, et qui a des conséquences aussi très importantes sur leur développement, sur les comportements, et ce qu'il y en est avec tout ça. Et heureusement, malheureusement, nous, comme adultes dans le milieu, qu'on essaie de naviguer dans cet univers-là qui avance généralement trop vite pour nous, mais suffisamment lentement pour être quand même plus apte que nos aînés, qui, eux, ont énormément plus de difficultés à aborder avec ça. Donc, je vais te laisser un peu aussi aborder là-dessus. Là, j'ai fait mon intro, je vais te laisser faire ton intro, puis ensuite, on va aller avec les questions peut-être un peu plus précises sur le sujet.
Oui, alors effectivement, je regroupe exactement d'ailleurs comme la deuxième édition du livre qui va bientôt sortir, ce chapitre qui traite des personnes vulnérables. Alors, ça parle effectivement des plus jeunes, de zéro, on va dire, jusqu'à la majorité. Ça parle des personnes âgées et également des personnes qui ont un handicap. Donc, ce sont trois échelles différentes où on a les personnes âgées qui, elles, ont, entre guillemets, découvert l'univers numérique en même temps qu'il s'est développé, à ceci près qu'ils avaient appris à fonctionner d'une autre manière et qu'on leur a mis un jour sur le bureau un ordinateur. Donc, il y a ceux qui ont réussi à s'adapter et ceux qui n'ont jamais réussi. Il faut savoir qu'il y avait très peu de formation hein, quand la secrétaire recevait son ordinateur, il a fallu beaucoup se débrouiller, et on n'a pas parlé de sécurité numérique au départ. Concernant les jeunes, eux sont nés avec un smartphone dans la main, hein, ça c'est l'avènement entre 2000 et 2007, mais pour autant, ils n'ont pas d'idée sur les dangers qui se cachent derrière cet outil-là. Derrière l'outil numérique, qui peut être un ordinateur, un smartphone, mais surtout le smartphone, qu'ils ont dans la poche en permanence et que les parents achètent un petit peu trop tôt parce qu'eux-mêmes ne se doutent pas de ce qui peut se passer, que ce soit en termes de cyberharcèlement, d'addiction et autre chose. Ce qui importe les parents, c'est que l'enfant soit joignable, mais ça peut l'être avec un téléphone de base, hein, et de céder à une pression puisqu'il y a la pression du groupe exercée sur les jeunes qui font qu'ils réclament de plus en plus tôt un outil numérique personnel. Et puis, les personnes atteintes d'un handicap, elles ont tous leurs droits juridiques, même si elles sont sous tutelle ou curatelle. Néanmoins, elles ont également besoin de l'outil numérique, comme tout adulte, pour effectuer certaines démarches, puisque l'on est dans une marche forcée de numérisation des différents services publics. Ce qui est aussi un problème quand on ne se préoccupe pas de la formation des personnes, de la formation des jeunes et de la sécurité numérique globale.
Oui, bien la formation est le point central, en tout cas pour moi, de ce chapitre-là, justement, comment amener ces gens-là à s'adapter, puis le fardeau est sur nous, adultes des temps modernes, dans lesquels on a fait, puis plusieurs ont connu la technologie quand elle a commencé à émerger, fait que nous-mêmes, on est apparus dans un moment où on n'est pas né comme les jeunes dans ces moments-là. Fait que ce qui crée des difficultés, si on parle des jeunes, par exemple, c'est de comprendre la place du numérique dans leur vie. Donc, il faut nous-mêmes se mettre dans ces réseaux-là, dans Facebook, Twitter, TikTok. Et TikTok, au moment qu'on enregistre, d'ailleurs, est un énorme problème où, enfin, les États se sont rendus compte du problème d'espionnage, mais on n'a pas parlé du problème sur ce qui est diffusé ou proposé aux enfants aussi, ce qui vient justement biaiser énormément leur développement, leur perception de soi. Dans un moment où ils sont en pleine évolution, en pleine croissance de leur image de soi, et quand on est dans un contexte comme ça, puis si on prend l'exemple de TikTok, bien, ce qui est scandaleux, si on veut, c'est le fait que qu'est-ce qui est proposé aux enfants occidentaux et dans cet axe-là, contrairement à ce qui est proposé aux enfants chinois, qui est dans des contextes beaucoup plus vers les sciences, beaucoup plus vers la recherche ou des choses comme ça. Fait qu'il expose les différentes populations à différents types de contenus. Donc, ce qu'on voit, ce que les enfants voient, donc la perception de la réalité est conditionnée par ces choses-là. Ça, c'est un volet déjà très important à quel point c'est dangereux. Donc, comme adulte, il faut aller voir pour comprendre, parce que si on ne le voit pas, on se le fait dire, bah non, c'est pas si grave. Quand on le voit de nos yeux, oui, c'est grave. Oui, c'est important. Même les adultes ont de la misère à tolérer le combat que ces médias sociaux-là imposent sur leur vie. Donc déjà là, même si nous, comme adultes, on a de la misère, les enfants, c'est pire que pire là, à ce moment-là, donc de les encadrer. Tu abordes à plusieurs axes, justement, dans le livre. C'est très intéressant parce que tu sais, il faut pas les exposer trop jeunes. Il faut les éduquer aussi. C'est très important de les amener à avoir des outils à comprendre, à maîtriser, parce que ça change fondamentalement comment on communique. Et comment tout ça s'articule dans la pression des pères, parce que les autres enfants en ont, parce que les parents ont des barrières ou des limites différentes selon le cas. Certains parents sont plus permissifs que d'autres, donc à ce moment-là, on se retrouve dans des contextes où les enfants sont exposés à d'autres enfants qui ont soit plus d'accès ou plus de choses sur Internet, les médias sociaux et ainsi de suite, qui là justement les amènent à s'exposer davantage à pression. Puis c'est très complexe, puis ça aborde justement certaines façons d'intervenir ou d'aider les parents à regarder la situation.
Alors effectivement, la première chose qu'il faut retenir, c'est que les entreprises qui sont derrière ces médias sociaux n'ont pas pour objectif le bonheur des enfants. Ils ont pour objectif de rentabiliser leurs outils, de récupérer un maximum de données personnelles, hein, puisque c'est vraiment le principe des data brokers, que ce soit les BATX ou les GAFAM. Et quand on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, on pourrait penser quand même que ce genre d'entreprise prendrait à charge en fait la responsabilité de ce qu'il laisse être diffusé sur ces médias. Alors, on a des parents qui ne comprennent absolument pas ce qui est diffusé, sachant que tout tourne autour de bulles algorithmiques, hein, c'est-à-dire que quand on cible certains enfants, on leur envoie certains contenus qui vont les faire réagir et on enclenche une boucle autour de ça qui ne va pas forcément dans le bon sens, qu'on ne maîtrise pas. Les parents, ça, ne le savent pas et ont peut-être l'impression que leur enfant fait simplement ce que tous les autres enfants font, ce qui n'est pas toujours le cas. N'imagine pas aussi qu'il y a des commentaires beaucoup plus violents, déconnectés de la réalité, c'est-à-dire que quand un enfant s'expose, par exemple une jeune fille qui se met en simple tenue pour son cours de danse, qui enregistre une vidéo de danse, une jeune fille de 12 ans, elle peut s'expose tout court en fait à des commentaires pédopornographiques ou autres, que la vidéo va être diffusée, réutilisée, transformée et commentée par des personnes particulièrement malveillantes, parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez 5 milliards de personnes connectées à ce genre de contenu et 5 milliards qui ne sont pas au pays des bisounours. Rien ne s'arrête, je dirais, quand l'enfant quitte l'école, comme ça pouvait se faire avant, quand les jeunes avaient des soucis. On est dans une représentation qui est permanente, et comme on est aussi dans une période où les jeunes ont le cerveau qui se forme, avec des besoins différents qui sont liés au groupe, à la séparation nécessaire des parents, des choses se produisent qui sont particulièrement néfastes sur le long terme. On n'a jamais vu autant de violence entre les jeunes, on n'a jamais vu autant de contenu, je vais revenir dessus, mais pédopornographique, parce qu'en ce moment, c'est une véritable problématique. On n'a jamais vu autant de jeunes qui sont mal dans leur peau et autant de parents qui sont complètement désemparés face à ça, parce qu'ils ne comprennent pas comment les choses fonctionnent véritablement. Alors, d'un côté, on a la responsabilité des plateformes, on a aussi la responsabilité des parents qu'il faut former et la responsabilité des jeunes sur ce qu'ils font dessus.
Oui, puis c'est d'autant, puis c'est ça, c'est complexe. L'enfance ou l'adolescence, c'est encore plus complexe parce qu'on a effectivement face à des jeunes qui vont se faire exploiter. On est déjà ce volet-là par des généralement des hommes, mais c'est pour un public masculin, on va dire, qui vont justement exploiter ces volets-là. Les jeunes produisent eux-mêmes du contenu qui les expose à ce genre de choses-là. Et entre eux autres, ils sont déjà très durs entre eux autres, comme ils pouvaient l'être avant dans la vraie vie. Là, puis tu le mentionnes très bien, ça n'arrête plus à la fin de l'école. Ça les suit jusqu'à la maison, ça les suit la nuit. Ça continue tout le temps, cette espèce d'afflux constant d'informations qui est là. Puis tu as l'autre axe aussi des parents qui ne respectent pas le droit des enfants, parce que c'est ça aussi, le droit à l'image. Puis ça, tu t'en parles aussi. Le fait de partager les informations de nos enfants contribue au problème que les enfants vont vivre aussi de ce côté-là.
Tout à fait. Ça, c'est... Alors, il y a deux choses. Il y a les enfants influenceurs, entre guillemets, et le parenting. Le parenting est plus simple à gérer. Je dirais que c'est simplement une méconnaissance du fonctionnement de ces outils. Parenting, c'est le fait pour des parents ou des proches de diffuser, même dans un cercle plus ou moins restreint, des photos de leur enfant. Alors, quand on accepte les conditions d'utilisation des plateformes, des réseaux sociaux, on accepte aussi que ces données soient enregistrées, collectées, utilisées, etc., etc. Ce sont des choses qui ne disparaissent finalement jamais. On s'expose aussi à des violations de données. Et quand on diffuse des images de son enfant, par exemple, sur le pot avec un petit tutu tout mignon, etc., c'est quelque chose qui peut ressortir et porter un grave préjudice plus tard à l'adolescent, ce qui est encore plus grave d'ailleurs, ou à l'adulte, qui aurait dû avoir son mot à dire sur ce moment-là. Donc, l'exposition des parents pour leurs enfants est un problème en soi qui devrait être beaucoup plus réglementé. Vous avez une campagne en Allemagne qui s'est déroulée il y a deux ou trois ans, je crois, je pense qu'elle est régulière, qui informe justement les parents des conséquences. Les images des enfants leur appartiennent à eux. Donc, quand un enfant naît, inutile de le balancer sur les réseaux sociaux. Il faut au contraire prévenir la famille que les photos qui sont envoyées doivent rester dans le cadre familial et d'ailleurs éviter de transférer ces images via ces plateformes. Vous avez nombre d'applications sécurisées qui permettent ce transfert en toute simplicité, toute sécurité. Et ces images n'ont pas vocation à rester ad vitam aeternam là-dessus. Ensuite, la question des enfants influenceurs est quelque chose qui est en train d'être réglementé, en tout cas à l'échelle française, si c'était bientôt européenne. Là, on se pose véritablement la question de l'intérêt de l'enfant derrière, puisque le jeune enfant vit une partie de sa vie dans un schéma un peu irréel et se déconnecte de la réalité. Il y a aussi une collecte d'argent qui est évidente. Hein. Vous avez des enfants influenceurs qui peuvent gagner de 10, 100 000 euros par mois jusqu'à plusieurs millions. Dans ce cas-là, qui contrôle cet argent? Qu'est-ce qui en est fait? Et jusqu'où vont les limites en fait, de cette exploitation de l'enfant? Parce que même si un petit enfant a plaisir à chanter une souris verte en vidéo, qu'est-ce qui nous dit que quand il aura conscience de ce qui se cache derrière, il recommencera? Et pour ça, il lui faut une maturité numérique qui est évidente et qu'on ne peut pas avoir quand on a moins de 15-18 ans. Donc, l'exposition des enfants doit être véritablement contrôlée et la mise en main du premier outil numérique aussi, parce que ça passe par là. Alors, avant 3 ans, il n'y a absolument aucun intérêt à exposer un enfant à un écran. Quand je vois des petits qui, à l'âge de 2 ans, savent déjà jouer sur le smartphone des parents, c'est absolument ahurissant et extrêmement grave comme comportement. Non, à 2 ans, on manipule des objets, on fait fonctionner son cerveau, son imagination, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on se développe. Pas en ayant les yeux rivés sur un écran. Vous avez un pays asiatique qui promet une belle amende d'un équivalent de 1 000 $ pour toute exposition d'un enfant de moins de 3 ans à un écran. Et cette amende, elle est équivalente si un enfant est exposé plus d'une demi-heure par jour à un écran jusqu'à 16 ans. Je me demande pourquoi on n'en est pas encore là ici. Mais dans tous les cas, il n'empêche qu'il faut aussi éduquer les enfants avant qu'ils aient leur premier outil numérique. L'éducation peut commencer vers l'âge de 7 ans parce que de toute façon, ils vont passer devant ces écrans, ils vont voir les adultes travailler avec ou jouer avec et il faut qu'ils comprennent aussi. D'ailleurs, la plupart des métiers, un grand nombre de métiers dans l'avenir seront liés au numérique, donc autant qu'ils apprennent à l'utiliser et à comprendre la machine, mais c'est aussi comprendre sa sécurité et les effets pervers qu'il peut y avoir derrière. Après, c'est magique, bien sûr, Quand j'étais petite, le téléphone, je trouvais que c'était absolument extraordinaire. J'en ai un petit peu abusé. Ma mère m'a envoyé travailler une semaine chez des amis à elle pour payer la facture de téléphone, parce que ce n'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui. J'ai bien retenu la leçon, vous voyez. Mais c'est vrai que ces outils sont absolument magiques, à condition de savoir s'en servir. Le premier outil numérique, par exemple, personnel, ne doit pas être mis entre les mains d'un enfant de moins de 15 ans, parce qu'ils n'ont pas du tout la même maturité, et que si on a fixé la majorité numérique à 15 ans, ce n'est pas non plus pour les prunes. Et de 15 à 18 ans, le contrôle parental devrait être obligatoire, systématique, sur tous les outils numériques personnels d'un enfant, avec une forme de confiance qui peut s'établir avec le parent, mais surtout beaucoup d'échanges.
Oui, ben le volet échange est très important, même qu'il peut être un peu difficile pour certains parents, puisque des fois les enfants sont un peu plus entêtés que d'autres ou plus dans une chose. Mais oui, c'est important ce dialogue-là. De mon expérience de parent, c'est ça qui justement a mené le chemin à comment mes enfants ont abordé le numérique, entre autres, l'usage. J'ai pas respecté les limites dans lesquelles tu mentionnes. J'ai été exposé un peu plus jeune que ça. Mais pas tant plus jeune que ça non plus. Là. Il était plus autour de 13 ans au moment où ils ont été exposés, mais avec des capacités limitées de l'outil pour justement s'en servir comme moyen de communication, mais moyen de communication plus message et non Facebook. Ce qui a fait aussi que mes enfants ont un peu moins d'intérêt. Ben, en tout cas, Facebook pour les jeunes maintenant, c'est pour les vieux, là, fait qu'ils s'y intéressent pas. Mais cela étant, ces plateformes-là ont pris beaucoup plus de temps dans leur vie avant de s'installer et de comment y aborder. Et généralement, ils abordent de façon plus restreinte, justement, parce qu'ils comprennent davantage ça, mais parce que je l'ai laissé le temps. Je l'ai justement évolué un peu, comme tu mentionnes, le dialogue toujours, comment placer les valeurs par rapport à ça, comment nos valeurs de parents doivent être transmises aux enfants, puis justement les aider à se guider, à se repérer dans cet univers-là, parce que c'est un terrain nouveau. Et comment on fait ça? Comme la famille aide à se positionner dans la société, nos valeurs et ainsi de suite, c'est la même chose en numérique, mais c'est un terrain nouveau, plus vaste, avec des citoyens du monde et non juste les citoyens de notre village. Donc, on est dans un contexte un peu différent et beaucoup plus difficile. Au Québec, on est en train, au moment où on enregistre, il y a une campagne de sensibilisation qui est lancée justement sur le volet le sexting, toutes les images transmises comme ça par les jeunes entre eux autres, souvent de dénudés, dans lesquelles je trouve ça un peu farfelu comme idée, là, mais bref, c'est la nouvelle réalité, elle est rendue là. Donc, ils sont en train de sensibiliser les jeunes justement à faire attention, à ne pas envoyer les dites images, ou si les images sont envoyées à la personne qui les reçoit, de ne pas les réutiliser aussi. On a eu quelques cas publics d'échanges de choses, puis c'est plate. Ces jeunes-là ne savaient peut-être pas à quel point ils s'exposaient. Ils se sont trouvés dans du droit criminel, donc ils se sont trouvés avec la cour pour les jeunes contrevenants, mais il demeure qu'eux vont avoir quand même un stigmate important attaché à leur vie, qui vont apparaître, parce qu'ils vont toujours apparaître dans les journaux comme étant ceux qui ont fait ce genre de choses-là. Même si on protège les noms, il reste que les médias sociaux n'ont pas de respect pour ces règles-là juridiques qu'on a mis en place. Donc, les noms des personnes sont connus. Tous les jeunes de la région savent c'est qui. Fait que tout ça, ce stigmate-là va les suivre pendant un certain temps. En plus, qu'ils ont été expulsés de l'école, en plus qu'ils ont eu un certain nombre d'éléments qui de stigmates importants, que je pense que les jeunes ne maîtrisent pas. Puis je t'en mentionne dans le livre, ils ne sont pas capables de concevoir ces éléments-là. Il faut aider les jeunes à concevoir que, puis même s'ils n'ont pas le cerveau développé pour le faire naturellement, leur faire comprendre qu'il y a des conséquences à tout ce qui est fait. Dans le réel, c'est facile parce que tu mets la main sur un rond chaud, c'est chaud, ça fait mal. Conséquences immédiates dans les médias sociaux ou sur Internet en général, la conséquence n'est pas là. Et c'est pour ça que le bullying, entre autres, est aussi facile chez les jeunes, à mon sens, par rapport à ça. Si on bascule pour les personnes âgées, qui eux sont vulnérables, mais pas pour les mêmes raisons. Puis, ce que tu en mentionnes, c'est justement tout le volet fraude, parce que c'est eux, ils se font frauder, là, c'est fou. Parce qu'ils font une confiance plus grande, comme on fait dans la vraie société, à des communications. Il faut les amener à comprendre autre chose. Je vais te laisser en parler un peu, parce que je suis un peu moins familier avec cet univers-là aussi, d'ailleurs.
La question de la confiance, c'est effectivement le même problème que ce soit pour les jeunes qui pratiquent le sexting, d'ailleurs, que pour les personnes âgées. D'ailleurs, la question de l'amour aussi est un peu la même base, c'est-à-dire qu'on envoie des photos de soi dénudées à la personne que l'on aime à l'instant T, qui peut être honnête ou pas, et les personnes âgées souvent sont aussi très seules et peuvent se laisser beaucoup plus facilement influencer par quelqu'un au bout du monde qui va faire du charme et leur soutirer de l'argent. Mais dans tous les cas, c'est cette question de confiance, que ce soit de l'amour, de l'amitié ou simplement quelqu'un qui a besoin d'aide. On a ce côté confiance naïve, c'est-à-dire qu'encore une fois, on a 5 milliards de personnes derrière ce simple petit outil numérique, on ne s'en rend absolument pas compte, on se sent en sécurité chez soi, dans son salon, avec ce petit ordinateur ou ce smartphone, la porte est fermée à clé, sauf que derrière, effectivement, on n'est pas au pays des bisounours, et vous avez des millions et des millions de personnes qui sont là pour essayer de vous soutirer quelque chose et principalement de l'argent. Les personnes âgées, elles fonctionnent, on va dire, un petit peu à l'ancienne. C'est-à-dire que vous croisez une personne sur domicile fixe dans la rue, cette personne vous fait un peu de peine, vous avez du cœur, vous lui donnez une pièce sur Internet. On manipule aussi un petit peu de la même façon, sauf que là, on essaie de récupérer soit directement un peu d'argent par des virements, soit des données personnelles qui vont conduire à un vidage de compte courant ou autre. Quasiment conscient en fait des personnes, c'est-à-dire que soit elles donnent ces données personnelles et le compte est vidé comme par magie, soit voilà, elles font des petits virements d'aide, etc., sans se rendre compte parce qu'il n'y a pas l'argent qui disparaît sous les yeux comme l'euro disparaît du porte-monnaie quand on le donne à une personne dans la rue. Donc c'est encore ce côté dématérialisé, c'est encore ce côté influence aussi d'une personne qui saura très bien faire, très bien amener les choses, et le fait que les personnes âgées et les personnes vulnérables qui ont un handicap n'imaginent pas qu'elles sont elles-mêmes, personnellement, une cible spécifique parce que fragile, de ce point de vue.
Ouais, mais déjà, il faut qu'ils admettent qu'ils sont fragiles, et déjà un constat difficile pour la plupart des gens d'admettre qu'on est dans cet état de fragilité-là. Et d'admettre qu'on doit aller chercher de l'aide déjà très difficile. Puis là, tu brosses un tableau plus glauque, là, c'est-à-dire que tous ces gens-là qui sont seuls en plus, qui sont pas que leur famille, soit n'ont pas d'amis, pas de famille, ou tous ces gens-là, ces personnes âgées-là qui sont un peu délaissées, ou délaissées par leur famille littéralement dans certains cas, là, ça, je trouve ça très triste comme situation. Justement, sont d'autant plus vulnérables parce qu'ils n'ont pas un réseau autour d'eux qui leur permet de comme recentrer par rapport à ce volet-là de vulnérabilité dans lequel les autres ils pensent à la bonne foi des gens que fondamentalement. Le problème, c'est que l'industrialisation du crime fait que la bonne foi, oui, mais non, sur Internet, on ne peut plus la présumer comme on peut la présumer dans la vraie vie.
Après, il y a de la logique derrière. Par exemple, vous connaissez ce qu'on appelle l'arnaque à la nigériane, qui a fait l'objet en fait d'un article de loi spécifique au Niger, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, qui en fait n'est pas du tout spécifique à ce pays-là. C'est quelque chose qui existe depuis même la Révolution française. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous envoie à l'époque, qui envoie une lettre à un village qui dit que tel noble est prisonnier, etc., qu'il a besoin de telle somme pour être libéré et qu'en échange, il donnera le double au village. Donc le village se cotise, paye la somme demandée et bien sûr ne revoit jamais cet argent. Là, c'est un peu pareil. Vous recevez des lettres de personnes qui disent qu'elles sont coincées à tel endroit, qu'elles ont besoin d'un petit peu d'argent et qu'en échange, on donnera le double ou beaucoup plus. Bref, il y a d'un côté l'idée de rendre service à la personne qui est toujours un petit peu gratifiant et l'autre côté qui est un peu pécunier où on se dit qu'on va peut-être récupérer un peu d'argent. Donc, ces deux angles-là, c'est vraiment l'arnaque parfaite qui s'est simplement transformée en une arnaque numérique, plus numérique, parce qu'elle touche beaucoup plus de personnes du fait de la facilité de sa réalisation. Certes, mais les personnes vulnérables sont justement les personnes qui se disent qu'elles ne le sont pas et qui, de fait, sont bien moins formées et informées sur la question numérique.
Oui, c'est un peu aussi étonnant qu'il faut avoir une dose d'humilité pour être capable de voir ce genre de choses-là. Fait qu'on a l'humilité suffisante pour être capable d'accepter le fait qu'on peut se faire avoir. On est moins propice à se faire avoir justement parce qu'on a l'humilité et non, on est, donc incidemment, même si on est naïf, on est moins propice à ce genre de choses-là où on n'a pas été exposé correctement à ces éléments-là. Troisième volet, tu parles des personnes vulnérables ou personnes avec un handicap.
On peut peut-être juste dire que ce serait bien que les outils soient adaptés à ces personnes.
Oui, oui, effectivement, il faut en tenir compte de ces éléments-là, de ces régimes de protection-là, où les gens qui gèrent ces régimes de protection-là aussi doivent, soit si des personnes ou leur entourage, ou le curateur public, là, qui sont justement l'institution publique qui gère les personnes, qui gère la vie des personnes qui n'ont pas l'habilité de le faire eux-mêmes, là, parce qu'ils ont des problèmes, soit physiques ou mentaux, qui les empêchent de pouvoir veiller à leur gestion.
Tout à fait. Alors que le tuteur ou le curateur soit issu du public ou que ce soit au contraire une personne privée, dans tous les cas, il y a cette responsabilité complémentaire. Alors, la personne sous tutelle ou curatelle ne perd pas ses droits juridiques. Simplement, elle doit être accompagnée et cet accompagnement doit aussi être numérique. Et je pense qu'il faudrait développer quelque chose dans ce sens-là beaucoup plus fortement pour accélérer cette sensibilisation qui doit vraiment être adaptée. Un petit peu comme pour les jeunes enfants ou les personnes âgées, il y a des manières d'aborder les choses. Et pour ces personnes qui ont un smartphone parce qu'elles en ont le droit et qu'en plus aujourd'hui on est en train de presque de forcer les personnes à en avoir un pour s'identifier d'une manière ou d'une autre, ce qui est aussi une passion, mais enfin, la formation doit être intrinsèque, mais vraiment pour tous. Mais ces personnes en particulier sont très exposées parce que quand un tuteur ou un curateur a une cinquantaine de personnes vulnérables à gérer, elle n'a pas toujours la possibilité de prendre le temps, justement, de contrôler tout ce qui peut se passer sur les activités qui la concerneraient de la personne vulnérable.
Très, très, très pertinent. Ça fait un tour quand même assez vaste du 10 chapitres. Moi, je terminerai là. Est-ce que tu as des éléments qu'on n'a pas couverts que tu trouves pertinent qu'on a rajouté?
Simplement à rajouter que si on veut véritablement avoir une génération qui est sensibilisée et formée aux outils numériques, il faut s'y prendre maintenant parce que ça va durer 25 ans. 25 ans d'une formation complète à mettre en place pour avoir un pays qui lui-même sait de quoi on parle quand on parle de sécurité numérique.
Je te remercie énormément. Toujours très enrichissant ces conversations-là, toujours très pertinent. Merci de ta générosité.
C'est moi qui te remercie.